ma tricolette pour cette introduction allongeuse qui a fait plus pleurer que rougir. Mais sache que la famille de Gerty est aussi bien sûr d'honneur et très chère à mon cœur aussi. Et pour la photo, si vous voulez la voir, cette fameuse photo, elle est sur mon profil de Facebook en ce moment. Alors, Colette m'a demandé de présenter le thème de la place de la femme chrétienne dans son foyer. Elle a bien précisé qu'elle ne voulait pas que je parle du rôle de la femme chrétienne, mais de sa place. Alors, voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la place de la femme chrétienne dans le foyer. Et c'est très simple. Sa place est au cœur du foyer. Et voilà. C'est... Alors, merci aux sœurs de Paris d'avoir choisi ce thème, parce que c'est vrai que, en parlant de la place, ça m'a fait partir dans une direction un peu différente de celle que j'aurais peut-être choisie. Et on peut dire que si la femme est centrée elle-même sur Dieu, si sa vie même est centrée sur Dieu, eh bien son foyer pourra aussi être centré sur lui. Mais avant de revenir à cette idée d'être centrée sur Dieu, examinons d'abord le couple. Parce qu'avant d'être une mère, on est d'abord une épouse en tant que femme. Et la place de la femme en tant qu'épouse est un peu différente aussi. Elle est à côté de son mari. J'aimerais lire le Genèse 2, 18. Dit, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Donc sa place est vraiment à côté de lui. Vous avez peut-être entendu cette citation. Dieu n'a pas créé la femme de la tête de l'homme pour qu'elle soit au-dessus de lui, ni de son pied pour qu'elle soit au-dessous de lui, mais de sa côte pour qu'elle soit à côté de lui. Elle reste à côté de lui, elle l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Elle n'est pas devant lui à le tirer en avant, ni derrière à le pousser, mais vraiment elle reste à côté de lui. Et je ne sais pas si vous connaissez des femmes qui sont tout le temps en train de soit d'essayer de tirer leur mari ou de le pousser, mais moi je vous dis que ces femmes-là, elles ne sont pas très heureuses. Ça c'est certain, et c'est aussi certain que le mari non plus. Il n'est pas heureux dans cette situation. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mariage à la grecque, mais à un moment donné, la fille qui est vraiment, elle ne sait pas quoi faire parce que son papa est tellement intransigeant, elle va vers sa maman, et la maman lui dit, ne t'inquiète pas, parce que l'homme, c'est vrai, c'est la tête, mais la femme, c'est le cou, et le cou tourne la tête où il veut. Et c'est peut-être pas une optique chrétienne, mais ça montre à quel point une femme peut avoir de l'influence sur son mari. Mais nous voulons avoir une influence positive sur nos maris et pas le manipuler, comme peut-être dans cette situation-là, dans ce film. Et j'aimerais, comme on est arrivé déjà au bout de la journée, on est peut-être un peu fatigué, je vais demander un peu de votre intervention aussi dans cette étude. Donc j'aimerais que vous citiez des exemples bibliques, ils peuvent être positifs ou négatifs, d'une femme qui influence son mari.
Jézabel et
Ahab. Voilà. Oui. Donc en quoi est-ce que Jézabel a influencé son mari?
Il voulait une vigne, elle lui dit, t'es le roi, mais t'inquiète pas, je m'en occupe, et elle fait tuer celui à qui appartient la vigne.
Voilà, donc vraiment, vraiment un exemple négatif d'une mauvaise influence. Et 1 Roi 21-25 dit, « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et sa femme Jézabel lui excitait.
Ah oui, d'accord.
Et qui a parlé de Sarah?
Moi.
Alors, en quoi est-ce que ça a influencé son mari? Voilà. Tiens, aussi un exemple négatif. Quelqu'un peut trouver un exemple positif? Comment? Esther. Très bien. Qu'est-ce que Esther a fait? Voilà. Elle a empêché son mari d'exterminer tout son peuple. Voilà, très bien.
Est-ce qu'on peut dire que Abigail, elle a influencé son mari ou qu'elle a agi à sa place?
Oui, je pense qu'elle aurait voulu peut-être l'influencer, mais elle a dû agir à sa place. Mais c'est vrai, c'est une femme exemplaire aussi.
Mais elle a influencé son futur mari en le calmant.
Oui, aussi, c'est juste. Elle n'était pas encore la femme de David, mais elle l'a... David lui a dit, tu m'as empêché de faire, faire beaucoup de mal aujourd'hui. Oui, oui. Il y a aussi la femme de Job. Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit à son mari? Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Bon, heureusement, son influence, non, elle n'a pas réussi à l'influencer. Une autre manière de rester à côté de son mari, c'est de ne jamais dire du mal de lui, de toujours parler positivement de lui, donc en son absence surtout. Et ça m'a beaucoup frappée quand je me suis mariée, je me suis retrouvée tout d'un coup dans un autre cercle, le cercle des femmes mariées, et j'étais très étonnée d'entendre même des femmes chrétiennes, quand elles se réunissaient entre elles, qui commençait à dire « Ah oui, mon mari, si, mon... ah oui, mais, ouais, mais ça c'est rien, mon mari, etc. Et » et c'était un peu l'escalade des choses négatives qu'elles disaient sur leur mari. Et j'ai décidé à ce moment-là que ça c'est quelque chose que j'essaierais à tout prix d'éviter. Parce que non seulement on donne une mauvaise image de son mari pour les autres, mais notre propre attitude envers notre mari peut devenir négative si nous prononçons des paroles négatives envers lui. Nicole nous a lu le passage en 1 Pierre 3 ce matin, mais je vais quand même le relire, puisqu'il parle directement de la relation entre l'homme et la femme. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Et bien sûr, il y a aussi la femme de Proverbe 31, mais j'aimerais lire quelques autres proverbes. Des tout petits proverbes qui sont parfois très négatifs, mais parfois très très positifs. Donc il y a Proverbe 12, 4. Une femme de valeur est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. 19, 13. Les querelles d'une femme sont une gouttière qui ne cesse de couler. Celle qui avait l'acte qui tombait dans le toilette hier soir, qu'on comprenne. Le verset suivant, une maison et des biens sont un héritage des pères, mais une femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. 21.9, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et le verset 19, mieux vaut habiter dans un pays désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Alors voilà, essayons d'être comme ces femmes, la femme vertueuse et les femmes qui sont la couronne de leur mari. Alors, pour en revenir à notre place centrale, avant de parler de notre rôle de mère, j'ai quelques images pour... montrer de quoi je parle. Alors voilà, disons que ça c'est notre vie centrée sur Christ. Et si la vie est bien centrée, on avance bien. imaginer, essayer de faire de... comment on appelle ça?
Monocycle.
Avec une roue mal centrée. C'est presque impossible. Et ensuite, quand on se marie, voilà, on va devenir la bicyclette. Voilà, on va mettre le, c'est la vie du mari. Ça, c'est le mari sont très surprise et la femme sont très surprise, on se met à l'arrière, parce qu'on se met. Voilà, on avance bien aussi si on est bien centré. Mais le fait que soit centré sur Christ, est-ce que ça veut dire que la route, elle va toujours être bien droite, bien plate, bien lisse? Non, absolument pas. Des fois, on se dit, mais je fais tout ce que Dieu veut, je fais sa volonté. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi, si j'obéis, si je suis sa volonté, c'est parce que des fois notre vie elle n'est pas tout droite comme ça. Elle est cabossée, ça peut des fois descendre, ça peut monter. Et je vous dis que si jamais notre vie n'est pas centrée sur Christ, même sur cette route plate, ça va être difficile. Alors imaginez sur une route accidentée comme ça. Alors. Donc si je veux simplement souligner le fait que je ne suis pas en train de dire si vous faites A, B, C, vous n'aurez pas de problème, parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie que nos enfants vont suivre le Seigneur. Il n'y a pas de garantie que notre mari va suivre le Seigneur. Mais au moins... la route sera quand même plus facile si nous sommes centrés sur Christ. Et voilà, maintenant on devient maman et on est dans la voiture. Et la voiture, ce n'est pas une 4x4. C'est pas une traction arrière non plus, c'est une traction avant. Parce que dans la famille chrétienne, ce sont quand même les parents qui mènent le bateau, ou la fille, qui conduisent la voiture. Et même, des fois, le monde, il reconnaît cela. On a entendu à la radio la semaine passée un psychologue français qui disait, si vous élevez vos enfants dans une démocratie, donc dans une famille où chacun dit ce qu'il veut, et chacun a le même droit de vote, ils deviendront des tyrans. Mais si vous les élevez de façon tyrannique, ils seront démocratisés. Donc, nous agissons aussi pour le bien de notre famille. Peut-être pas toujours, on ne va pas toujours agir de la façon la plus facile pour nous, de laisser les enfants. C'est peut-être plus facile de leur dire, non, tu n'écouteras pas cette musique, non, tu ne regarderas pas ce film, non, tu ne diras pas ces paroles-là, que de fermer les oreilles et de laisser couler. Parce que si on laisse couler, c'est comme le 4x4, ça ne va pas du tout dans la famille chrétienne. Et on a vu dans la Bible aussi des exemples de parents qui ont laissé couler. Moi, je n'ai pas trouvé d'exemple de femmes, mais plutôt de père, puisque dans l'Ancien Testament, c'était le père qui avait toute l'autorité. Mais est-ce que vous pouvez citer des exemples de pères qui suivaient Dieu, mais qui ont un peu fermé les yeux, fermé les oreilles devant la conduite de leurs enfants?
David.
David, oui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à David? Oui. Et quelles ont été les conséquences pour David? Oui, Amon.
Il a dû s'exiler.
Il a eu plein de malheurs avec ses enfants. Un autre? Élie? Oui? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, voilà. Ils sont morts à la guerre. Comment? Pharaon, c'était pas un homme de Dieu quand même. Des exemples d'hommes de Dieu qui ont fermé les yeux devant la conduite de leurs enfants. Il y a aussi Samuel. qui s'est intéressé puisqu'il a vu ce qu'Élie avait fait avec ses enfants. Il a fait la même erreur avec les siens. Bien, alors nous, en tant que mère, nous sommes au centre de notre foyer, mais ça ne veut pas dire qu'on va se mettre entre les membres de la famille. C'est-à-dire, on ne va pas se mettre entre les enfants, ni entre le mari et les enfants. Et là aussi, on peut trouver quelques exemples bibliques. Vous pensez à des exemples bibliques d'une maman qui s'est mise entre ses enfants ou qui s'est mise entre son mari et ses enfants. Voilà, c'est l'exemple typique. Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a encouragé son fils à faire?
À mentir à papa.
À mentir à papa et à prendre la place de son frère. Oui. Et quel a été le résultat pour elle? Voilà. Elle a plus jamais revu son fils préféré, Jacob, qui a dû partir à cause de cet incident. Donc, puisque nous sommes au centre du foyer, nos enfants aussi nous observent. On est un peu comme dans un bocal de poisson rouge. On est toujours visible. Et finalement, ils vont nous imiter, surtout les filles, je dirais. Et parfois, c'est malgré elles. Même moi, des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? J'ai juré de ne jamais dire cette phrase que ma maman disait. Mais ça sort quand même, parce qu'on a tendance à imiter nos parents et les filles, surtout les mamans. Et on dit, telle mère, telle fille. Alors, soyons des exemples pour ne pas avoir honte de voir notre propre conduite reproduite chez nos filles. Alors, est-ce que vous pouvez penser à un exemple biblique d'une maman et d'une fille qui a reproduit la même conduite que sa maman? Ou bien, pas forcément la fille, le fils aussi. Oui, oui, oui. La fille d'Hérodiade qui a demandé la tête de Jean-Baptiste, elle a dit, maman, qu'est-ce que je fais? Elle a suivi le conseil de sa maman. Elle a imité la méchanceté de sa maman. Un exemple positif, peut-être? Oui, très bien. Myriam est la maman de Moïse. Donc la sœur de Moïse et la maman de Moïse. Très bien. Un autre exemple positif, peut-être? Oui. 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 Très bien. Mais Jésus n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. Très juste. Moi, j'ai aussi pensé à Eunice et Loïs, la maman et la grand-maman de Timothée, qui, je vais lire le verset de Timothée 1:5, quand Paul, parlant de Timothée, dit, il garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Donc voilà. Un exemple reproduit chez l'enfant. Mais on dit, je voulais aussi parler d'un autre exemple négatif, c'est celle d'Athalie. Quelqu'un se souvient de qui était Athalie?
C'est la maman d'un des rois d'Israël. Elle était reine. Oui, elle était reine d'Israël.
Voilà, elle a tué tous ses petits-enfants. Et vous savez qui elle était en fait? C'était la sœur d'Akab. Ah, donc on voit le même comportement répété dans la famille. Là, on entend telle mère, telle fille, mais on entend le plus souvent encore tel père, tel fils.
Ouais.
Et c'est vrai aussi, mais moi, juste entre parenthèses, j'aimerais dire aux jeunes filles, oui, tel père, tel fils, c'est vrai, mais si vous vous intéressez par un certain jeune homme, regardez comment il traite sa maman. Parce que c'est comme ça qu'il vous traitera. Et je dis aux mamans, ne laissez pas vos fils, ni vos filles, vous traiter avec un manque de respect, parce que s'ils le font, vous assurez pour votre enfant un mariage malheureux ou même peut-être le divorce. Ça, c'est quelque chose de très important, d'insister que vos enfants vous respectent. Et aussi, juste encore une chose à dire aux jeunes filles qui ne sont pas mariées, c'est que si vous choisissez d'épouser un homme qui n'est pas chrétien, qui n'a pas la foi en Dieu, c'est la décision la plus dangereuse que vous puissiez prendre de toute votre vie. Et je connais des jeunes qui commencent à sortir avec soit une fille, soit un garçon qui ne sont pas chrétiens. Et au début, ils disent, bon, ben, c'est juste, on sort comme ça. Et après, au bout de quelques temps, le cœur est engagé et on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est le fait d'épouser quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous, c'est jouer avec le feu. Et on risque très gros. Pouvez-vous penser à quelques exemples bibliques de personnes qui sont mariées en dehors de la foi ? Non, pas Samuel, non. Salomon. Et Salomon, alors là, c'était la catastrophe. Les femmes étrangères l'ont complètement éloigné de Dieu. Et quelqu'un d'autre a dit Samson, voilà. Samson et Dalila, on voit bien les conséquences que cela a eu pour Samson. Bien, on ne peut pas parler de la place de la femme chrétienne dans le foyer sans parler de la prière. Une femme chrétienne centrée sur Dieu va prier pour ses enfants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne garantit pas qu'ils feront toujours les bons choix. Mais c'est ça de gagner, en tout cas. Si on prie pour eux, on sait que Dieu va répondre et que ça va ne pourra qu'avoir des effets positifs. Vous pouvez citer l'exemple d'une maman qui prie pour ses enfants ?
Anne,
la maman de Samuel. Eh bien, j'ai justement un verset à lire en 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et le verset 28. « Ainsi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Et voilà. Voilà. Merci, c'est tout ce que j'avais. Alors,